la vocation des communautés présentes sur la colline de Belloc. Retransmission de la table ronde du 10 février 2023 à l'abbaye de Belloc en la fête de Sainte Scolastique. Aujourd'hui, nous vous proposons la première intervention de cette table ronde, les femmes et la colline de Belloc, le monastère les bénédictines du monastère Sainte Scolastique. Voici l'intervention de la prieure des bénédictines, sœur Marie-Noël Etchelette.
Les femmes et la colline de Belloc. Effectivement, il y a eu des femmes sur la colline de Belloc. C'est qu'il y a 137 ans, nous étions une communauté nouvelle. Et oui, une communauté nouvelle issue du renouveau chrétien du 19e siècle. Et de quelques jeunes filles chrétiennes du pays, humbles et intrépides dans la foi, voulant consacrer leur vie à la recherche de Dieu. Et au fond, c'est cette histoire centenaire que je vais vous raconter. C'est que la rencontre entre frères et sœurs, moines et moniales, plonge ses racines en celle de Saint Benoît et de sa sœur Sainte Scolastique. Ce nom étrange, Scolastique, mais déplaçons-nous au 6e siècle, ou même au 5e siècle, et dans la partie de ce qui deviendra l'Italie, qui s'appelait le Latium, je crois, entre Rome et Naples. Voici le passage où le pape Saint Grégoire le Grand, dans son ouvrage Les Dialogues, raconte la vie de Scolastique, sœur de Saint Benoît. Scolastique avait donc fondé le monastère du Mont Cassin au sud de Rome. Scolastique, consacré à Dieu Tout-Puissant dès son enfance, allait voir son frère une fois par an. L'homme de Dieu se rendait vers elle dans le domaine du monastère sans dépasser beaucoup la porte. Un jour, elle vint comme d'habitude et son vénérable frère se rendit vers elle avec ses disciples. Ils passèrent toute la journée dans les louanges de Dieu et de saints entretiens. Quand la nuit tomba, ils mangèrent ensemble. Comme il se faisait tard, à la fin de ces saints entretiens, la moniale lui fit cette demande. « Je t'en prie, ne me quitte pas, continuons de parler des joies de la vie céleste. » Il lui répondit, « Que dis-tu là, ma sœur ? Je ne puis aucunement demeurer hors de mon monastère. » La moniale, lorsqu'elle entendit le refus de son frère, posa ses mains, ses doigts sur la table et l'inclina la tête pour prier Dieu le Tout-Puissant. Comme elle relevait la tête, les éclairs et le tonnerre éclatèrent avec une telle force, un tel déluge se mit à tomber que ni le vénérable Benoît, ni les frères qui l'accompagnaient ne purent faire un pas hors de l'endroit où ils étaient réunis. Alors l'homme de Dieu, tout triste, se mit à se plaindre. « Que Dieu Tout-Puissant te pardonne, ma sœur. Qu'est-ce que tu as fait là ?» Elle répondit, « Je t'ai prié, tu n'as pas voulu m'entendre. Alors j'ai prié mon Dieu et lui m'a entendu. Maintenant, sors si tu peux. Quitte-moi et retourne dans ton monastère. » Lui qui n'avait pas voulu rester, demeurait là malgré lui. Et c'est ainsi qu'ils prolongèrent leur veillée à veiller et ils se rassasièrent de leurs entretiens, de leurs échanges sur la vie spirituelle. Et Saint Grégoire le Grand conclut, « Il n'est pas étonnant qu'une femme l'ait emporté sur lui, car selon la parole de Saint Jean, Dieu est amour. » Et par un juste jugement, celle qui a aimé davantage a été la plus puissante. Fin du récit de Saint Grégoire le Grand. Avons-nous là simplement une légende, une histoire pieuse, un récit apocryphe attribué postérieurement au pape Saint Grégoire le Grand. Peu importe, elle est signifiante et depuis plus d'un millénaire, elle inspire autant les frères que les sœurs. Car finalement, ce récit a le mérite d'équilibrer le poids de la règle monastique comprise trop souvent dans le sens de permis ou de défendu. Sainte Scolastique a en quelque sorte recadré son frère et lui a rappelé que la règle est là pour nous aider à aimer, pour faire grandir l'amour. Et la petite phrase dite sur Sainte Scolastique, qui est le commentaire de Grégoire le Grand, « Plus potuit cuia, plus amavit, celle qui a aimé davantage a été plus puissante », remet en lumière le fait qu'il n'y a qu'une règle qui devrait éclairer l'agir de tout chrétien, de tout moniale et de tout moine. Et c'est la règle de l'amour. Et cette règle de l'amour n'est jamais arrêtée par une simple règle humaine. Alors maintenant, passons quelques siècles et arrêtons-nous sur la colline d'Urt, où les pères bénédictins s'étaient établis depuis 1875. Deux jeunes filles du pays, du village d'Urt, se retrouvaient fréquemment à la messe et aux offices des pères bénédictins, et elles confièrent à l'un d'eux leur désir de mener elles aussi une vie analogue à celle qu'elles observaient à l'occasion de leur visite. Le fondateur et père abbé de Belloc discerna et crut en l'authenticité de leur vocation, et il les orienta vers le monastère de Saint-Jean d'Angély en Charente, fondé un siècle auparavant par trois moniales rescapées de la Révolution française. Elles étaient deux bénédictines et une carmélite, toutes trois chassées de leur monastère par la Révolution. Cachées dans leur famille, elles continuaient à vivre la vie monastique jusqu'au moment où elles purent quitter la clandestinité, vivre ouvertement selon le mode de vie transmis depuis plusieurs siècles d'une génération à l'autre contre vent et marée. Ensuite, des jeunes femmes les rejoignirent et l'abbaye se développa, et au début du XXe siècle, la communauté trop à l'étroit à Saint-Jean d'Angély migra à Moumont, toujours dans les Charentes. Donc, c'est à Saint-Jean d'Angély que Marie-Louise, qui devient sœur Angèle, et Julie, qui reçut le nom de sœur Germaine, reçurent l'habit monastique et se formèrent à la vie monastique. Le 10 février 1818, toutes deux prirent l'habit et prononcèrent leurs vœux temporaires. Selon la chronique des bénédictines de Saint-Jean d'Angély, je la cite, « Ces deux bonnes sœurs sont des sujets excellents qu'on nous a envoyés d'Urt près de Bayonne pour prendre l'esprit de Saint-Benoît et les usages de nos saintes constitutions et les reporter ensuite dans la nouvelle communauté des sœurs bénédictines que le père Augustin Bastre a l'intention d'établir en face de la sienne. À Belloc, les pères cherchaient un toit qui puisse accueillir ces six fondatrices de la communauté future. À 500 mètres de Belloc, une grosse maison de maître fut d'abord louée, et c'est là que les deux professes arrivèrent le 19 mai 1883, rejointes le 23 mai par quatre autres postulantes. Ainsi débuta le monastère des bénédictines d'Urt, adossé pour ainsi dire à l'abbaye de Belloc. Mais nous plaisons à le faire remarquer, ce sont les moines qui ont donné envie aux jeunes filles d'en faire autant. Ainsi débuta donc le monastère des Bénédictines. Les débuts furent difficiles, les obstacles nombreux. Les conditions étaient défavorables et les lois qui allaient obliger les religieux à l'exil ou la sécularisation se dessinaient déjà en France. Il était évident que les observances classiques d'une communauté de moniales bénédictines ne purent être d'emblée et intégralement adoptées par la jeune communauté. Tout était à organiser. En premier lieu, la vie commune, la liturgie, l'économie, et qu'il fallait bâtir un monastère et l'église. Père Bastre leur donna des constitutions provisoires approuvées par l'évêque de Bayonne, qui vint visiter la maison, et il examina les dispositions et aptitudes de chacune des personnes qui s'y trouvaient. Et il autorisa le père Bastre à donner l'habit religieux aux 5 postulantes qui étaient là en attente. Les annales de la communauté racontent la visite de l'abbesse de Saint-Jean d'Angély, où elles écrivaient « Le supérieur de cette intéressante communauté est le prieur de Belloc. Il les dirige, leur fait le chapitre chaque semaine, elles récitent l'office et le dimanche, elles chantent la grand-messe avec beaucoup d'ensemble. Tout fait espérer que cette fondation est l'œuvre de Dieu et aura un succès durable. La jeune communauté se développe et dès 1886 faisait l'acquisition de la maison de fondation et de ses dépendances. Elle se lançait dans la construction d'une chapelle consacrée par l'évêque du lieu en 87. Et le 26 août de l'année suivante, les premières professions perpétuelles des frères issus du premier noviciat de Belloc furent célébrées dans la chapelle des sœurs, à la grande joie de celles-ci, disent toujours nos annales. Leurs essais de fabrication de fromage et de cierges liturgiques seront récompensés par l'obtention d'une médaille d'or pour chacune de ces activités à l'exposition internationale de 1897 à Arcachon. Après 1888, Mère Placide Lespade fut régulièrement élue et réélue par la communauté des sœurs qu'elle gouverna pendant 36 ans, s'efforçant de lui donner, contre vents et marées, une forme de vie bénédictine. Et en 1890, c'est toujours sur nos annales que j'ai découvert ça, Père Augustin Bastre, fondateur de la communauté jumelle, est élevé à la dignité abbatiale, joie qui illumina les deux communautés. Nos annales relatent que les sœurs tinrent à lui offrir l'anneau abbatial. Les années 1892 à 96 furent marqués par la construction de ce qui sera à proprement parler notre premier monastère. L'entraide fraternelle des deux communautés joua grandement. Père Fulgence de Belloc en fut l'architecte et les plans de construction étaient étudiés et arrêtés après plusieurs réunions du conseil privé présidé par le révérendissime Père Abbé. La perspective des expulsions concernant les communautés religieuses devenait de plus en plus menaçante, alors que le recrutement ne tarissait pas. En 1889, Mère Placide et son conseil décida d'envoyer des sœurs en Oklahoma, aux USA, où des pères de Belloc avaient ouvert une mission. Un premier départ de 4 sœurs eut lieu le 14 septembre et l'année suivante un second départ de 4 et un troisième en 95. Enfin, en 1903, l'expulsion des moines de Belloc étant effective, on envoya la maîtresse des novices avec 8 sœurs, toujours à Sacré-Heart, et après bien des péripéties, Elles fondèrent à Ramsey, en Louisiane, un couvent de bénédictines et ouvrirent une école dans les milieux populaires de la Louisiane. D'autres sœurs furent envoyées à l'abbaye de Jouarre et à l'abbaye de La Rochette. À Belloc, le décret d'expulsion arriva le samedi de Pâques, 18 avril 1903, et le 30 avril, c'était le départ sur les routes de l'exil. Notre communauté des sœurs poursuivit son chemin dans l'audace de la foi et de l'espérance pour maintenir une présence bénédictine de prière, de travail et de silence, prenant désormais sa vie en main sous la houlette de Mère Placide, soutenue par la bienveillante vigilance de l'évêque de Bayonne et de ses successeurs. Le père abbé Bastre, qui devait mourir l'année suivante en exil, avait pris soin de leur laisser l'un des moines comme aumônier et deux frères assimilés à des domestiques. Nos annales restent discrètes concernant cette période douloureuse et sur les mesures qu'elles ont dû prendre pour cacher ceux qui n'avaient plus le droit d'y être. Elles-mêmes se demandaient à quand notre tour. Certes, elles avaient pris la précaution de louer une maison en Guipuscoa, mais cependant, à part quelques alertes, elles ne furent pas inquiétées. La tradition orale reçue de nos anciennes prétend qu'elles auraient été protégées par la municipalité d'Urte sous couvert de leurs activités de fromagerie et de ciergerie bénéfiques pour la population environnante. Il faut ajouter aussi qu'à cette époque, les femmes n'étaient pas électrices et que leur présence plus ou moins nombreuse sur la colline était sans risque pour la majorité municipale. C'est le commentaire que je me permets d'ajouter. Un événement providentiel vient éclairer la colline de Belloc, désormais vidée de ses moines. L'un des fondateurs, Père Michel Caliava, gagna son procès contre l'État et acquit la propriété de l'abbaye de Belloc et l'offrit à Mgr J.E.R., évêque de Bayonne, pour y installer le petit séminaire, ce qui fut fait en 1906. Je l'ai trouvé dans nos annales. Après, je laisse aux historiens le soin d'infirmer ou de confirmer la chose. Ce voisinage du petit séminaire contribua fortement à familiariser l'évêque du diocèse avec sa communauté de bénédictines, dont il fit les visites canoniques, et puis aida à donner à la communauté des statuts conformes à ceux que pratiquaient les autres monastères. Toujours selon nos annales, Mère Placide demanda à Saint-Jean d'Angély et à Jouarre de communiquer constitution, déclaration, coutumier, cérémonial. Et puis, là je fais encore un saut d'un siècle, l'année dernière, en 2022, nous avons constitué une fédération avec Maumont Jouarre et 14 autres monastères de bénédictines. Donc c'est comme la boucle qui est fermée, voilà. Et nos annales racontent qu'en 1911, elles achetèrent les bréviaires et firent installer la lumière électrique dans la maison, pour dire l'office. Et le 10 février, disent toujours nos annales, elles eurent l'insigne bonheur de chanter pour la première fois l'office selon le rite monastique en union avec la grande famille bénédictine du monde entier. Le 2 août 1914, les événements se précipitent. La France entre en guerre et les lois contre les congrégations sont suspendues. Mère Placide apprit la nouvelle à Saint-Jean de Luz en rentrant d'Espagne où elle renouvelait le bail de la demeure qui aurait servi de refuge en cas d'expulsion. Les moines en âge de porter les armes rentrèrent de leur exil d'Espagne, de Jérusalem et d'ailleurs. À Belloc, en prévision du retour des moines, qui se produirait bien un jour. Frère Martin, donc l'ouvrier des bénédictines, fut envoyé par la prieure pour défricher autour du monastère. Des moines s'y installèrent dès la fin de la guerre, encore en situation illégale, en pensant que quand on a le droit de mourir pour son pays, on a le droit d'y vivre. C'est toujours nos annales. Le monastère logeait encore le petit séminaire de Bayonne et nos annales restent discrètes pour cette période où il a fallu composer. Toutefois, elle relate dans nos annales la bénédiction abbatiale de Don Maur Etcheverry en 1920, un fils de Belloc, et qui comptait plusieurs proches parentes parmi les bénédictines. Et Monseigneur Gieur permit aux sœurs de quitter leur clôture, de s'associer aux festivités et de se rendre à l'abbaye de Belloc pour la cérémonie religieuse, puis d'accueillir dans une de leurs salles, pour le banquet, les nombreux invités. Voilà. Et en 1926, ce fut le retour d'exil des moines. Les relations fraternelles entre les deux communautés se rétablirent comme naturellement, dans le respect mutuel de l'autonomie spécifique de chacun, mais aussi dans une circulation de vie et d'esprit monastique. Un moine était nommé comme chapelain et confesseur, et d'autres, selon leurs compétences et à la demande de la prieure, donner des conférences ou un enseignement suivi. Et ici, je me plais de relater un souvenir personnel. Lorsqu'en 1967, j'entrais au noviciat, la communauté étudiait avec quelle ferveur, j'ose dire scruter, les documents du concile. Et je venais pourtant d'institutions religieuses, on ne nous avait jamais mis ça aux mains, ni dans nos paroisses. Voilà. Et nos chroniques signalent aussi les conférences et causeries données à la communauté par les abbés primats successifs ou les abbés présidents de la congrégation de Subiaco qui, venant à Belloc, ne manquaient jamais de visiter les sœurs et de leur parler. En 1965, notre communauté fut agréée à la Confédération bénédictine. En 1984, elle fut affiliée à la congrégation masculine de Subiaco, étant participante des chapitres provinciaux et généraux. En 1980, c'était l'année de Saint-Benoît. La plus marquante de nos célébrations fut de répondre à l'invitation de l'évêque Monseigneur Jean-Paul Vincent a participé avec les moines de Belloc à la fête de Saint-Léon, patron de la ville épiscopale de Bayonne. Le chant des deux communautés résonna joyeusement à l'Eucharistie et aux vêpres de la cathédrale. En 1988, le nouvel évêque, Monseigneur Moller, nous demanda de préparer et de participer à la vigile pascale à l'abbaye de Belloc comme témoignage d'église en cette année mariale. Et puis, en 1993, il redit son souhait de nous voir célébrer ainsi chaque année une unique vigile pascale avec les frères de Belloc. La mutualisation de nos forces devint une nécessité du fait de la diminution de nos deux communautés, des besoins grandissants de l'église locale, elle aussi marquée par la pénurie grandissante des prêtres. Et en 2002, une de nos sœurs est devenue maîtresse de chœur et organiste des deux communautés. Avec la bénédiction de l'évêque, nous avons progressivement augmenté le nombre de célébrations liturgiques communes, d'abord en alternance de lieux, à Noël, la Semaine Sainte, les Vigiles Pascales, déjà mentionnées, etc. Et puis, toutes nos liturgies eucharistiques sont devenues peu à peu communes aux deux communautés. Et la pandémie nous a obligés à adopter nos manières de faire aux règles sanitaires. Mais nous étions à la campagne et puis nous estimions que nous étions sur nos terres. Alors on a pris les règles sanitaires avec quelques libertés quand même. Et ça a découragé le Covid. Voilà. Et le 30 juin 2022, les frères s'installent dans la partie non occupée du monastère des sœurs, célébrant de concert les louanges du Seigneur pour la gloire de Dieu et le bien de l'Église, espérons-nous. Ainsi soit-il pour le temps que Dieu nous donnera. Amen. Merci.
Les femmes et la colline de Belloc, les bénédictines du monastère Sainte-Scolastique, vous venez de suivre l'intervention de sœur Marie-Noëlle Etchelette, prieure des bénédictines. La semaine prochaine, nous vous proposerons la deuxième partie de cette table ronde et vous entendrez le frère Jean-François Dallemand, prieur de Belloc, qui évoquera la spiritualité de Saint-Benoît. La vocation des communautés présentes sur la colline de Belloc. Retransmission de la table ronde du 10 février 2023 à l'abbaye de Belloc en la fête de Sainte Scolastique.